France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Non seulement Jules Romain était l'auteur de la saga série Les Hommes de Bonne Volonté, 27 volumes, un millier de personnages, mais il était également excellent interprète. La preuve, pour la radio, en une série d'émissions d'une demi-heure chacune, il revenait sur quelques-uns de ses tomes, prêtant la voix à plusieurs personnages. Excellent comédien, oui, il faut dire que Jules Romain était aussi auteur de théâtre, ne serait-ce que l'immortel Knock. Nous étions le 12 mars 1951 sur la chaîne nationale.
Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, Monsieur Jules Romain de l'Académie française continue sa présentation des Hommes de Bonne Volonté par le second volume, Crime de Quinette.
Vous vous rappelez que le 6 octobre au soir, Quinette ne sait encore rien de précis sur le meurtre et le meurtrier dont il s'est fait par un caprice bizarre, complice et protecteur. Il a accompagné l'inconnu jusqu'à son refuge de la rue Taillepin, recueilli sa malle. Mais où le crime a-t-il eu lieu? Sur la personne de qui? Aucune émotion dans le quartier, même le lendemain, pas un mot dans les journaux. Quinette, dont cette situation intrigue et échauffe l'esprit, s'impose la patience. Il revoit son homme chaque jour, lui soutire quelques renseignements. L'homme s'appelle Leudry, ouvrier imprimeur, soi-disant en chômage, en fait un déclassé. Il a tué parce qu'il a été surpris en train de voler, mais il refuse de désigner l'endroit et la victime. Quinette se demande si le forfait de son protégé ne va pas aller s'enfouir dans la catégorie vaste, probablement, des crimes jamais découverts. Il en restera pour lui, Quinette, le souvenir d'une émotion secrète et exceptionnelle. Et voilà que le 12 au matin, les journaux annoncent qu'on vient de trouver dans une baraque au bout d'un passage privé de la rue Dayou, la rue même où habite Quinette, le cadavre d'une vieille femme assassinée depuis apparemment une huitaine de jours. La victime est une brocanteuse qui vivait seule. Le mobile du crime semble être le vol. Quinette se rend compte que l'aide qu'il a déjà donnée à Leudry l'oblige à tout faire encore pour le soustraire aux recherches. Il commence par inspecter la malle où il n'avait jusque-là jeté qu'un coup d'œil. Il brûle un certain nombre d'objets d'apparence suspecte provenant sans doute de vols antérieurs. Puis il se rend sans tarder rue Taillepin, déniche Leudry dans un petit café du voisinage et l'entraîne à l'intérieur de l'église Saint-Merry. Asseyez-vous. Nous serons très tranquilles pour causer.
Ils ne vont pas trouver drôle que nous soyons là.
L'essentiel est qu'on n'entende pas que nous parlons. Vous ne savez donc pas chuchoter sans bruit de voix?
Non, pas bien. Ça m'embrouille les lèvres.
Vous y arriverez. Alors, vous avez lu le journal?
Ouais, non. Qu'est-ce qu'il y a donc?
Il y a que la chose a été découverte hier soir.
Par la police?
Mais n'employez pas des termes comme ça, autant que possible. Oui, par ces gens-là, bien entendu.
C'est terrible. Ça devait arriver, je suis fichu.
Il y a une chose que j'ai trouvée un peu vexante, c'est d'apprendre tout ça par le journal, dire que vous n'avez rien voulu me confier à moi.
C'était pas tant pour me cacher de vous, mais ça me faisait l'effet que ça serait comme si j'avouais, et du moment qu'on avoue, on est cuit.
Bref, vrai ou non, votre raison ne tient plus. J'espère donc que vous me ferez le plaisir de me répondre catégoriquement. Vous ne m'avez pas menti en me jurant qu'il n'avait rien sur vous?
Rien sur moi?
Pas de fiche, pas de... Vous saisissez?
Et Quinette lui montrait son pouce.
Non, je vous jure que non. Il vaudrait 100 fois mieux me le dire. Non, sur la tête de ma mère. Soit. Autre point capital. Comment avez-vous connu cette bonne femme?
Il y a 6 mois de ça, j'avais cherché à vendre des couverts d'argenterie.
Et qui venait d'où?
Je les avais eus, honnêtement. C'est un copain, ancien valet de chambre, qui me les avait proposés un jour. Dame-lui, comment est-ce qu'il les avait eus? Je les lui ai achetés, pas cher. Après, j'ai eu besoin d'argent. Le type à qui je les porte, un petit bijoutier, me dit... Oups, ça m'intéresse pas. Peut-être qu'il se méfiait. Mais moi, j'insiste, il me dit... Allez chez Madame Huntel, elle vous achètera ça des fois. Voilà, j'ai vu son cajot. Sur le moment, ça m'a donné aucune idée, mais plus tard, ça m'est revenu.
Tant que vous n'étiez pas un familier de la maison, les voisins ne vous connaissaient pas de vue.
Pensez-vous.
La nuit en question, à quelle heure vous êtes-vous introduit?
C'est pas pour me faire parler que vous m'avez raconté que c'était découvert.
Tenez, voici le journal. Vous pouvez lire, sans l'ouvrir tout grand. Il est resté plié à l'endroit de l'article.
Bon,
mais regardez le titre au moins, alors. Vous avez vu?
Oui. Eh ben, ça devait être vers les 4h, 4h30.
Si tôt que ça?
Ouais.
Et vous en sortiez quand vous êtes arrivé chez moi?
Ouais.
Et pourquoi est-ce que ça a duré si longtemps?
Parce que j'y suis retourné.
Comment ça?
Mais j'avais pas réussi à trouver l'argent. J'étais parti avec quelques bijoux de l'orfèvrerie. Je me suis dit, c'est trop bête.
Mais quand vous êtes entré chez moi, vous n'aviez pas de paquet?
Non.
Alors, les objets dont vous parlez, qu'en aviez-vous fait?
Ben, laissez que je vous explique. Je me suis dit, oh, c'est trop bête, j'ai pas bien cherché. D'un autre côté, ça m'ennuyait d'y retourner avec ces machins-là sur moi. Alors, il y avait contre un mur, vous savez, une de ces cabanes où les ouvriers de la ville y mettent leurs outils, un tas de sable. Ben, j'ai fourré mon paquet entre la cabane et le mur, un peu sous le sable. Et je suis retourné à l'endroit.
Mais la personne, pendant ce temps-là,
elle avait pas bougé.
Ah, elle était déjà...
Non.
Comment? Vous ne l'aviez pas...
Pour l'étourdir seulement.
Attendez, taisons-nous.
Quoi?
Chut, voilà un bedeau qui vient.
Mais le bedeau, avant d'atteindre le lieu où ils étaient, se dirigea vers la grande nef, traversa l'allée centrale en esquissant une génuflexion et alla s'occuper d'un porte-cierge.
Alors, ben je disais que je lui avais donné seulement un coup pour l'étourdir. Avec quoi? Un morceau de plomb entouré d'un chiffon. Que vous aviez apporté?
Oui, c'est une affaire dont on sert dans les imprimeries. Ah, on pouvait me fouiller, ça n'avait rien de drôle que j'ai ça sur moi.
Mais je ne comprends pas, à quel moment avez-vous frappé?
Tout au début, mais le sang. Ah ben ça c'est quand je partais la deuxième fois. Tout à coup je l'ai vu arriver, elle s'était remise et s'est accrochée à mon bras. Vous parlez si j'ai eu peur.
Mais le journal dit qu'on a retrouvé un couteau.
Ben je l'avais pris n'importe où dans l'affolement.
Vous l'aviez pas dans votre poche?
Non, il était là sur une table au milieu des couverts et du reste. J'avais plus mon plomb sous la main.
Où était-il?
J'avais dû le laisser près du lit.
Oh, c'est très ennuyeux. On le découvrira. Et comme ça fait partie du matériel de votre métier, ça orientera les recherches.
Oh, mais non. Je me rappelle maintenant que je l'ai posé au milieu de tout un bric-à-brac, des boules en verre, des presse-papiers. Même que je me suis dit qu'une boule ou un presse-papier aurait fait aussi bien. C'est ce qui me fait souvenir.
D'abord, c'est pas dans son lit qu'on l'a retrouvée, elle. Non, près de la porte, au bas de l'escalier.
Ah, c'est ça. On n'aura pas l'idée d'aller chercher du côté du lit.
Avec le chiffon autour, ça attirera l'attention.
Le chiffon n'y était plus, je sais. J'avais commencé à lui fourrer dans la bouche pour le cas où il aurait crié.
Il se répandit une forte odeur d'encens. Peut-être garnissait-on des encensoirs dans la sacristie.
Oh, ça sent l'enterrement. J'aime pas ce truc-là.
La seconde fois, vous avez fini par dénicher le...
Oh, en tout cas, j'en ai trouvé un peu.
Qu'en avez-vous fait?
J'en garde une partie sur moi.
Mais le reste, hein? Et le premier paquet, vous l'avez laissé dans le sable, derrière la cabane?
Non, je l'ai repris.
Quand ça?
Un peu après être sorti de chez vous.
On vous a pas vu le reprendre?
Oh, j'ai attendu qu'il n'y ait personne.
Et maintenant, où est-il? Allons. Oh, vous êtes trop bête.
Kinet avait besoin de parler plus fort, de secouer le heudry. Il se transporte au fond d'un café sous les voûtes du viaduc de la rue de Lyon, où ils parleront plus à l'aise. Kinet poursuit son interrogatoire en usant au besoin de menaces. Il apprend que le heudry a confié le magot à sa maîtresse, Sophie Parent, papetière rue Vandamme, qui l'a mis dans son coffre de la caisse d'épargne en croyant qu'il s'agissait de bijoux et d'importants papiers de famille. Le heudry se fait passer auprès d'elle pour un jeune ingénieur, pour le moment sans situation. Muni de ces renseignements, Kinet organise un plan de défense méthodique. Il va d'abord visiter les lieux du crime. Il constate que la baraque est fort isolée et qu'il y a peu de chances que le heudry ait été vu. La concierge du passage l'a bien aperçu quand il s'en allait, mais comme ce n'était pas le jour que la police considère comme celui du crime, et comme d'autre part la vieille dame est incapable de fournir un signalement, l'incident ne risque guère d'être retenu par l'enquête. Puis Kinet se rend chez la papetière de la rue Vandamme, à qui il se donne comme l'avocat de le heudry. Il feint d'être inquiet sur le sort des papiers, il persuade cette naïve créature d'accepter l'arrangement suivant. Elle ne laissera dans le coffre que le paquet de l'heudry qu'elle n'a pas ouvert, puis confiera la clé à Kinet tout en gardant pour elle le secret de la combinaison de trois chiffres. De la sorte, nul n'aura accès au précieux papier sans que Kinet et la dame en soient d'accord. Ce que Kinette veut éviter, bien entendu, c'est que la dame, cédant à la curiosité, ne fourre son nez dans le paquet. Il cherche ensuite pour l'Eudry un refuge, moins pittoresque peut-être que celui de la rue Taillepin, mais où il passera plus sûrement inaperçu. Il l'installe dans une arrière-cour du faubourg Saint-Denis, où il aura l'air de garder un semblant de dépôt de papier peint. Enfin, le lendemain matin, Kinette se décide à une manœuvre préventive du côté de la police. Il va chez le commissaire de son quartier. Monsieur le commissaire, je m'excuse de vous déranger, mais je crois que j'apporte un témoignage intéressant sur l'affaire qui passionne tout le quartier. Oui, sur le crime de la rue Dailloux.
Le commissaire, qui s'était attendu à quelques plaintes banales et qui s'apprêtait à écouter distraitement, leva la tête. Il avait devant lui, à coup sûr, un bourgeois des plus honorables du 15e arrondissement.
Figurez-vous, monsieur le commissaire, que je n'en ai pas dormi. J'ai failli venir hier soir, j'ai hésité. Voici, je suis relieur d'art, justement rue Dailloux. Mon magasin est un petit sanctuaire de travail où je ferai un plaisir à l'occasion, monsieur le commissaire, de vous montrer quelques spécimens d'un art qui conserve encore de nobles traditions. Oui, et il me semble que je vois votre magasin. C'est sur le trottoir de droite en venant du boulevard, n'est-ce pas? Exactement, monsieur le commissaire. Une autre fois, vous me ferez l'amitié d'entrer. J'ai en particulier deux ou trois éditions illustrées du 18e siècle, un peu leste, mais de toute beauté. Bref, mardi dernier, j'étais en train de faire une manipulation délicate quand j'entends s'ouvrir la porte de mon magasin sur la rue, j'accours, je vois un homme d'une tenue à peu près correcte, mais les vêtements souillés en plusieurs endroits et blessés ou écorchés aux mains. L'air très remué, il me dit « Je viens d'être renversé par une voiture, permettez-moi de me laver ». Bon, j'ai tout juste jeté un coup d'œil dans la rue où je n'ai rien vu, puis j'ai mené l'inconnu au robinet de ma cuisine pendant qu'il se nettoyait, je l'ai questionné avec ménagement. « Quelle voiture était-ce ? » ?»« Une auto, » me répondit-il. « Où cela ? » ?»« À deux pas de chez vous. » « Mais il ne s'est pas arrêté ?» « Non, je ne sais même pas si le chauffeur s'est aperçu de l'accident. » Oh, mon Dieu, monsieur le commissaire, tout ça n'était pas tellement invraisemblable, même l'entrée de cet homme chez moi, il n'y a pas de pharmacien dans la rue. Je lui ai dit seulement « vous avez beaucoup saigné. » Il m'a répondu quelque chose comme « Oh, ça vaut mieux bon. ». Il est reparti au bout de 20 minutes peut-être en me remerciant. Je n'ai plus pensé à lui. J'ai même pas été étonné de ne pas entendre parler d'un accident de voiture. Les autos nous ont habitués à des dangers si répétés. Mais entrevoyez-vous maintenant, monsieur le commissaire, le rapprochement qui s'est fait dans mon esprit hier matin quand j'ai lu le journal?
Le commissaire hésita une seconde, sourit, puis
« Vous croyez ?» À première vue, je pense pas qu'il y ait une relation quelconque entre l'assassinat de cette vieille sorcière et la visite de votre homme. Mais tenez, l'inspecteur qui s'est occupé des premières constatations doit être là, à côté, justement. Nous allons lui demander son avis.
L'inspecteur, un nommé Maria, d'environ 35 ans, d'assez grande taille, aux joues pleines, écouta le résumé que fit le commissaire de la déposition du relieur. Oh, évidemment, il n'y a pas beaucoup de chances pour que ce soit l'individu que nous cherchons, mais comme nous n'avons jusqu'à présent aucune piste, votre homme portait des paquets?
Non, je n'ai pas remarqué.
Quelle heure était-il?
J'étais au travail depuis déjà quelque temps.
10 heures?
Plutôt 9h30. Le commissaire intervint.
Oui, l'heure ne concorde pas. Avec notre hypothèse provisoire.
La date non plus.
Oh, ce sont les médecins qui parlent de dimanche, mais moi, vous savez, 48 heures près.
Je pensais que vous aviez des indices ou même déjà d'autres témoignages. C'est curieux que les voisins n'aient rien entendu, rien observé. Si le renseignement que je vous apporte ne s'accorde à rien, il perd naturellement beaucoup de son intérêt.
Oh, ce n'est pas une raison pour le dédaigner. Vous avez gardé un souvenir de votre homme, vous pourriez nous donner son signalement?
Kinette pensa dans un éclair, voici le moment décisif. Un peu avant l'aube, il avait écrit point par point le signalement imaginaire auquel il s'était arrêté, mais il lui fallait éviter le ton d'un homme qui récite, ou plutôt, tandis qu'il accomplissait un effort de mémoire ordonné et rapide, en simuler un autre, beaucoup plus tâtonnant. Et je crois que oui, malgré mon manque d'habitude, d'autant qu'il avait un visage très frappant, le nez surtout, fortement busqué, et des yeux noirs, sous des sourcils broussailleux, des joues maigres, creuses, un air, comment dire, un peu espagnol ou même oriental.
Des moustaches?
Oui, noires, bien fournies, assez longues.
Le front haut ou bas?
Et plutôt bas.
Étroit de figure?
Oui.
Bref, Kinette s'efforce de donner un signalement aussi différent que possible de celui de Lehedry, qui est blond fade, à les yeux gris, le nez retroussé. Les deux policiers ne songent pas à mettre en doute la bonne foi d'un monsieur si respectable. Et quelques heures plus tard, Kinette est convoqué au commissariat. On lui présente une vingtaine de photographies. Du gibier de police, évidemment. Est-ce qu'il en reconnaît une? Le relieur se caresse la barbe, prend son temps. Il éprouve un plaisir à penser que des suites entières d'événements dépendent de son caprice. Je puis désigner l'un de ces hommes-là comme Dieu le désignerait. Me montrer formelle, suite passionnante de toute façon. Vous me voyez très perplexe, messieurs. L'une de ces photos a une ressemblance troublante avec l'homme qui est entré chez moi. Troublante, mais non totale. Laquelle? Attendez. Entre deux doigts, il en pince une au hasard, comme un enfant qui a longtemps hésité se décide brusquement pour un des nombreux gâteaux d'une pâtisserie, et il la pousse sur la table. Celle-ci. Mais ça n'est pas décisif. On lui donne rendez-vous pour le soir même, quai des Orfèvres. On lui fera voir l'individu en question. Sans doute sait-on où le cueillir. Il va en effet au rendez-vous, retrouve l'inspecteur Maria, qui l'a rencontré dans la matinée. Cette fois, c'est sérieux. Surtout, ne cherchez pas à vous suggestionner. Ne vous interrogez même pas. Il faut que du premier coup d'œil, ce soit oui ou non. Ils suivent un long couloir, 20 mètres à peu près. 20 secondes devant soi, plus question de choisir voluptueusement en se caressant la barbe. Et pas le temps d'hésiter. Maria ouvre la porte, Kinette entrevoit plusieurs hommes sur une banquette, 4 exactement, qui se lèvent à l'ouverture de la porte. Passe devant les 4 hommes, en s'obligeant malgré tout à les regarder. Il se retourne vers l'inspecteur qui le guette et il murmure, en levant un peu les épaules et en écartant les bras, « Non, ce n'est pas ça, aucun. » Il ressent une dépression nerveuse, d'une soudaineté de creusement presque intolérable. Quelque chose en lui prononce, c'est Ledry qui payera ça. Ledry a toutes sortes de raisons de payer ça. C'est un vulgaire assassin que la société châtirait si elle le tenait. C'est un imbécile et une loque. Il ne cesse d'enfreindre les consignes qu'on lui donne dans son intérêt. Kinette n'a pas pardonné non plus la fourberie du premier jour, les vêtements sanglants glissés dans le paquet de livres. Il y a plus grave. Kinette, en se frottant au crime, y a pris goût. Il y aperçoit de vives jouissances, des preuves de puissance que la ceinture Herculex ne procure pas. Des voluptés intellectuelles, quand à l'accomplissement du crime succède le problème de faire pour la société, comme s'il n'avait jamais eu lieu. Quelle meilleure occasion que celle que vous offre ce Ledry. D'autant qu'avec sa balourdise, il finirait de toute façon par se faire prendre. Vous irez peut-être en prison pour lui, sans lui avoir épargné l'échafaud. La conclusion est qu'un jour, Kinette, sous un prétexte, mène Ledry au fond des carrières de Bagnolet, le tue, puis le rend impossible à identifier en lui posant sur le visage une grosse éponge qu'il arrose d'un liquide apparenté au vitriol. Kinette nous a longuement retenus. C'était naturel, il donne son nom au volume. Cependant, d'autres personnages y ont leur place. Averkamp, qui a engagé Vazem, installe boulevard du Palais une agence immobilière dont les méthodes seront toutes nouvelles, mais qui surtout servira de tremplin à des spéculations futures. Gureau, le député de gauche que nous avons rencontré la semaine dernière chez Germaine Bader, sa maîtresse, est l'objet d'une manœuvre d'encerclement par le groupe des industriels du pétrole. À ce groupe appartiennent le comte de Chancenay, que nous connaissons déjà, et un certain Roger Saméco, en qui se joint, aux préoccupations du manieur d'affaires, un goût de l'aventure poétique, sans peut-être beaucoup de profondeur. Justement, une de ces aventures naît sous nos yeux. Saméco, après une réunion très matinale de l'état-major des pétroliers chez le comte de Chancenay, et le départ de ce dernier pour une démarche qu'ils viennent de décider, s'attarde dans le salon, il rêvasse, il respire des traces de parfum, entend un bruit d'eau éloigné qui est sans doute celui d'une baignoire. Marie de Chancenay doit être à sa toilette. Saméco, dont le ménage est ami du ménage Chancenay depuis des années, a fait la cour à Marie à l'occasion, mais sans ténacité ni intention précise. En voilà qu'il est envahi soudain par le désir de cette femme et plus encore peut-être par l'attrait d'une décision inexplicable, d'une fantaisie qui lui semble digne d'une âme artiste. Il s'attarde encore, se monte l'imagination, fait dire à la comtesse qu'il voudrait bien lui parler. Marie, croyant à quelque urgence et qui n'a point à se gêner avec un familier de la maison, paraît bientôt, et je cite, « dans une robe d'intérieur presque aussi libre qu'un peignoir, elle tend la main à Saméco,
Elle a terminé soigneusement sa toilette en lui laissant un aspect d'improvisation. Des parfums, des fraîcheurs, une moiteur flottante l'accompagnent et communiquent d'emblée à l'entrevue un charme d'intimité physique. Je m'excuse de vous recevoir ainsi. Oh, et moi d'avoir eu l'audace de vous demander d'être reçu. Et en quelques phrases, comme s'il venait de recevoir le coup de foudre, ou de trouver enfin le courage d'avouer une passion longtemps contenue, Sameko fait à Marie, stupéfaite mais bientôt bouleversée, une déclaration dont la sincérité augmente à mesure qu'elle s'exprime. Il la dévore des yeux pour la première fois de sa vie. Il la trouve belle, douce, désirable. Il aperçoit en elle de profondes tendresses, des perspectives qui sont déjà enivrantes, même si elles ne mènent qu'au détour et aux pénombres d'une secrète amitié. « Cher, cher ami, murmure-t-il, ma chère Marie, un quart d'heure comme celui-ci, de temps en temps, je ne sollicite rien de plus. » Elle le regarde, elle a un petit tremblement des lèvres. Depuis des années, personne ne lui a parlé de cette façon. Et l'homme qui lui parle ainsi est Sameko, dont elle connaît les moindres traits du visage, les inflexions de voix, le commencement de calvitie, le léger grisonnement des tempes, les idées favorites, les manies alimentaires, dont elle croyait connaître les limites, mais non, elle ne les connaissait pas. Dont elle croyait savoir qu'il ne serait jamais dangereux pour son repos. Mais voilà qu'il est peut-être plus dangereux qu'un inconnu, parce qu'un inconnu est inconnu tout entier. C'est justement l'excès d'inconnu dont il est porteur qui vous met en défense. Si même il semble vous conquérir d'un coup, il se heurte pour longtemps à toute une série de retranchements invisibles où vous ne cessez de vous réfugier. Mais quand Sameko, silhouette familière, se présente avec une certaine quantité d'inconnu sous le bras, votre surprise ne fera pas que vous l'empêchiez de passer, lui et son bagage. Vous serez pour lui comme un chemin habituel où l'on avance d'un pas rapide. Il se lève, il baise la main que Marie lui abandonne. Ils ont l'impression de rajeunir ensemble. Le boudoir gris-souris et rose pâle, la robe d'intérieur, les parfums confidentiels, la lumière de la rue Mozart forment un réseau de soie où l'avenir auquel personne ne pensait et qui est entré comme un oiseau par la fenêtre, vient bizarrement se prendre. Marie sent bien qu'elle n'aurait encore qu'un geste à faire pour le délivrer, mais chez elle, aussi bien que le goût de trouver une riposte, la volonté de choisir est suspendue. Il faudrait encore parler de son père, le vieux maître. Dans la maison de Kiru du Mont-Sny se tient, comme chaque mercredi, une réunion de ceux de ses anciens élèves d'Auteuil, qui, comme Clan Ricard, sont ses fils spirituels. J'aurais aimé vous faire pénétrer dès aujourd'hui dans ce milieu où se cultivent quelques-unes des valeurs morales auxquelles le titre même de l'œuvre ne craint pas de se référer. En revanche, nous allons assister à la première rencontre de Jalès et de Gerfagnon, c'est-à-dire des deux héros de ce roman qui, tout compte fait, y tiendront le plus de place et en exprimeront aussi quelques-unes des tendances maîtresses. Reçus récemment à Normale Supérieure, ils sont venus faire un tour rue d'Ulm avant l'ouverture. Jalès est un Parisien. Gerfagnon, qui a fait ses études au lycée de Lyon, arrive de son Velay natal. Ils se rencontrent et engagent une conversation qui ensuite se développe en une promenade, leur première promenade commune à travers Paris. Ils se tutoient d'emblée, comme c'est l'usage entre normaliens. « Tu connais Paris ?» demanda Jalès. « Ma foi, non. Je n'y suis venu que pour l'oral du concours. J'étais si abruti, je me suis un peu promené dans le centre le soir et... Le dimanche avant mon départ, j'ai visité quelques monuments au galop, ça ne compte pas.
Ce qu'il faut éviter quand on a le temps comme toi, c'est la course aux curiosités, les monuments, les musées, les points de vue, un à un, dans l'ordre traditionnel. Mais ça encore, on s'en préserve assez bien lorsqu'on sent qu'on va devenir un habitant. Le danger plutôt, c'est de s'habituer à un Paris conventionnel, fait de 5 ou 6 endroits du centre, toujours les mêmes, où l'on glisse et reglisse machinalement, plus le petit coin où on a ses occupations. Quand un nouveau Parisien a pris ce pli-là, même pendant 3 semaines, il est perdu.
Alors, qu'est-ce que tu recommandes ?
Ce que nous faisons en ce moment-ci, aller devant soi, dans n'importe quelle direction qui se présente, se laisser conduire par les lieux eux-mêmes.
Mais en ce moment-ci, par exemple, tu sais bien où tu nous mènes ?
Ouf ! Tout cela joue ensemble. Il n'est pas défendu d'avoir un but, à condition qu'on se sente avec lui de grande liberté. Figure-toi que je suis très content que nous soyons rencontrés ce matin. J'ai idée que c'est un bon hasard. Je ne sais pas si nous serons toujours du même avis, mais c'est pas ce qui compte le plus. Nous sommes encombrés de camarades qui ont des avis, qui n'ont que ça. Ce qui est difficile à trouver, c'est quelqu'un qui soit capable de s'ouvrir à des choses sur lesquelles il n'a encore aucun avis. Ce que j'appelle un homme sérieux. Les autres sont des pédants frivoles.
C'est vrai. Tous brillants sujets, bien entendu. À Lyon, on les remuait à l'appel.
D'un autre côté, j'ai l'impression non seulement que la vie est très courte.
Ah, déjà ?
Eh oui, déjà. Pas toi ?
Oh, si.
Mais surtout que la partie décisive en dure très peu. Certaines questions sont réglées de bonne heure, par exemple celle des amitiés. Je suis persuadé qu'à partir d'un âge dont nous approchons, on avance dans une solitude terrible.
Bah, sauf pourtant les amitiés qu'on se sera faites.
Oui, justement. Du côté de l'amour, c'est peut-être pas forcément la même chose. Qu'en penses-tu ?
Ben, je me demande.
En tout cas, la question peut se poser, tandis que pour les amitiés, j'ai bien peur qu'elle ne se pose pas. Moi, je m'explique ça parce que je nomme le témoignage.
C'est-à-dire ?
Bon, ça se rattache à une idée de l'amitié, aussi à une idée de l'esprit. À cette idée qu'à un moment donné du monde, l'esprit est appelé à tester certaines choses. Tu connais les pèlerins d'Emmaüs de Rembrandt ?
Oui, j'ai jeté un coup d'œil au tableau le dimanche où j'ai traversé le Louvre en courant. Mais c'est par la production que je le connais le mieux.
Nous irons le revoir ensemble. Les pèlerins dans l'auberge sont témoins d'un événement, d'une présence encore cachée au reste du monde. Ils auront à la tester ensemble. Même s'ils ne s'étaient pas connus jusque-là, ils deviendraient de grands amis. À mon idée, c'est toujours un peu comme ça que l'on devient ami. On est présent ensemble à un moment du monde, peut-être à un secret fugitif du monde, à une apparition que personne n'a vue encore, que peut-être personne ne verra plus. Même si c'est très peu de choses. Tiens, deux hommes, par exemple, se promènent comme nous, et il y a tout à coup, grâce à une échancrure de nuages, une lumière qui vient frapper le haut d'un mur, et le haut du mur devient pour un instant on ne sait quoi d'extraordinaire. L'un des deux hommes touche l'épaule de l'autre qui lève la tête et voit ça aussi, comprend ça aussi. Puis la chose s'évanouit là-haut. Mais eux sauront in aeternum qu'elle a existé. Voilà pourquoi aussi on a si peu de temps pour se faire un tout petit nombre d'amis, d'amis qu'on perdra peut-être, mais qu'on ne remplacera plus.
Mais je ne vois pas bien le rapport.
Mais si. Même en admettant que nous ayons dans toute notre vie une chance comme celle d'Emmaüs, je veux dire la chance de nous heurter à une présence extraordinaire qui méritera d'être attestée in aeternum, à quel âge l'aurons-nous, mon vieux, si c'est pas maintenant ?
Une violente odeur de tannerie régnait alentour, Gerfagnon la reniflait avec surprise.
La politique t'intéresse ?
Oh, pas trop celle des politiciens, mais les idées politiques ou sociales, les événements eux-mêmes, oui.
Moi, j'ai toujours été assez pessimiste en ce qui concerne le monde actuel, l'arrangement actuel du monde, mais je suis revenu de la caserne avec un sentiment de la fatalité, comment dire, plus sacré. Qu'est-ce que tu penses des affaires balkaniques ?
Bah, la semaine dernière, j'ai cru que ça y était.
J'ai pas l'impression que ça soit tellement amélioré. Ce matin, les dépêches ne valent pas cher. En tout cas, la sottise des gens est effrayante.
Ils avaient quitté l'avenue des Gobelins et par de petites rues, ils atteignaient le haut du boulevard de l'hôpital. Gerfagnon regarda autour de lui. Quelle est cette grande place derrière nous ?
La place d'Italie. C'est un endroit assez déconcertant qu'on n'interprète qu'à la longue. Mais ici, comment trouves-tu ?
Ben, ça me surprend. Je dirais presque que ça m'émeut.
Et encore, l'heure n'est pas très bonne. Il faudrait y tomber à certaines fins de journée, juste avant la nuit, quand il fait un peu de vent. Un vent mou de sud-ouest, qui vient de là-bas, derrière. Tu sais, les becs de gaz luisent alors comme des lumières marines. Chaque flamme se débat dans une solitude. Quelques voitures passent très loin de vous. On descend ce large trottoir tranquille. Il y a l'ampleur de la pente, le but invisible, l'idée du fleuve, la liberté du pas, les pensées qui vous viennent. On a envie de ne plus rentrer. Il semble que les heures du soir et de la nuit vous attendent au bas de la descente comme un navire illuminé. Tiens, là encore, je crois qu'il est essentiel, irremplaçable d'être jeune.
Monsieur Jules Romain de l'Académie française, vous a présenté, en interprétant lui-même les scènes à plusieurs voix, Crime de Quinette, le deuxième volume de son grand roman Les Hommes de Bonne Volonté.
C'était Les Hommes de Bonne Volonté, le crime de Quinette, de et par Jules Romain, une émission de Roger Goupillière, première diffusion sur la chaîne nationale le 12 mars 1951.